Et nous allons lire seulement deux versets pour commencer, mais on va en lire plus à travers le message. Je vous rappelle que c'est le récit du passage de la mer Rouge, la délivrance surnaturelle de Dieu. Alors, on va lire les versets 13 et 14 pour commencer. Bien vous installer, ça bouge encore un peu. C'est parti, tout est beau. OK. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Oh Seigneur, on a un texte merveilleux de ta parole sous les yeux. Des vérités riches, des vérités extraordinaires, mais on veut juste s'arrêter sur la fin du verset qu'on a terminé avec. On veut garder le silence devant toi. On s'assied à tes pieds, notre divin maître, pour entendre ta douce voix. Et Seigneur, on sait que tu es le Dieu saint, unique, extraordinaire. Donc c'est de ça qu'on s'attend de toi, Seigneur, des choses saintes, uniques, extraordinaires, qui te glorifie. On commence cette année, Seigneur, renouvelée en toi. Puisses-tu nous communiquer, Seigneur, ce que tu as pour chacun de nous ici, puis comme Église aussi. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Je l'ai dit tantôt avant le temps de prière, on commence une nouvelle année avec un nouveau thème, créé pour sa gloire. On va avoir 12 thèmes qui vont aller à chaque mois. Celui de ce mois-ci, c'est... Créé pour la gloire de Dieu. En fait, c'est vraiment le commencement parce qu'il n'y a rien de plus important que la gloire de Dieu. Ça va avec le thème annuel, mais on va y aller plus en détail sur la gloire de Dieu. Et on va le faire, je le dis, à travers des récits, à travers des histoires bibliques qui, dans le fond, incarnent les vérités. Il y a quelque chose de bien spécial lorsqu'on a une histoire devant les yeux. Pourquoi? Parce que je disais tantôt, au niveau de l'attention, au niveau de l'intérêt, souvent on aime bien une bonne histoire, le dénouement, puis comment ça vire, puis tout ça. On peut aussi s'identifier à ça, c'est des gens comme nous qui ont vécu des choses. Et surtout, parce que Jésus l'a dit lui-même, toutes les Écritures rendent témoignage de lui. On peut y voir Jésus, sa rédemption, puis toute l'histoire de la rédemption qui se déroule. Donc c'est pour ces raisons qu'on considère ça ensemble. Et aujourd'hui, on commence avec le thème de janvier sur « Créer pour la gloire de Dieu » avec une série de 4 messages en janvier. Si Dieu le veut, on va avoir 4 messages sur la gloire de Dieu dans le livre de l'Exode. Et l'Exode, c'est plus que l'histoire de la délivrance. C'est bien évidemment la délivrance de l'esclavage qu'on voit dans ce livre qui est vraiment riche en leçons. Mais c'est d'abord et avant tout la révélation du Dieu de gloire, la révélation du vrai Dieu. C'est pour ça que ça commence dans le chapitre 3, avec l'appel de Moïse, où est-ce que Dieu se révèle. Il dit, c'est moi, je suis, il s'identifie pour dire que c'est pas n'importe qui va faire ces choses, c'est Dieu. Donc, il faut comprendre ça en partant. C'est plus que juste, waouh, un exploit, puis le côté spectaculaire des plaies, puis tout ça. Non, c'est Dieu qui se révèle. C'est d'abord et avant tout. Et c'est pour ça que le titre du message, c'est créé pour la gloire de sa révélation. Et on va considérer aujourd'hui ce chapitre 14 du passage de la mer Rouge. Et bien sûr, je ne sais pas si vous savez, là, mais je parlais de Jésus dans les Écritures, on a ici, si vous voulez, une parabole, un symbole, une image du salut en Jésus, d'être esclave, comme eux autres étaient esclaves en Égypte, nous on était esclaves du péché, puis là, de façon miraculeuse, d'être délivrés de cet esclavage. Donc, le passage de la mer Rouge est une image du salut. Puis, par rapport à la révélation de qui Dieu est, Dieu a révélé qu'il était le Dieu surnaturel, unique, qui est capable de faire ça. Puis c'est quoi aussi quelqu'un qui est sauvé? C'est quelqu'un qui était rebelle, qui ne voulait rien savoir de Dieu, puis qui là, connaît le vrai Dieu vivant, puis il ne le connaît pas juste en théorie dans sa tête, mais il le connaît de façon relationnelle, d'une façon vivante et unique. Donc, le parallèle est là aussi entre l'histoire qu'on a ici et nos vies. Puis une application évidemment aussi pour les enfants de Dieu, pas juste pour le salut, mais pour la sanctification, qui est bien pertinent pour la vie chrétienne parce que on passe parfois par des circonstances exténuantes, difficiles. Et on voit ici l'épreuve de la foi. Hein, il était éprouvé, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Un peu comme Pierre le dit, hein, l'épreuve de la foi plus précieuse que l'or périssable. Et qu'est-ce qu'on a souvent comme question dans cette épreuve de la foi? Question peut-être trop peu avouée ou peut-être pas explicitement exprimée, mais où est Dieu dans mes circonstances impossibles? Évidemment, on le voit ici, mais c'est aussi vrai pour nous. Dieu s'est toujours se révélé. Puis on va considérer ça ensemble avec trois gloires de Dieu qui révèlent sa personne et sa mission. D'abord, puis là, on ne va pas lire, ça serait beaucoup trop long, mais les 10 plaies d'Égypte. Okay? Ça, c'est Exode 7 à 11. Okay? C'est quatre chapitres qui nous donnent les détails de tout ça. C'est la gloire de son jugement. La première gloire avec les 10 plaies, c'est la gloire de son jugement. Et les 10 plaies, pas si vous le savez, mais ils ne sont pas juste choisis au hasard de même. Ah, OK, on va faire ci, on va faire ça. Non, chaque plaie est un jugement spécifique contre les dieux d'Égypte. Il y avait toutes sortes de dieux, là. C'était des polythéistes, puis des idoles. Et Dieu les juge et il proclame sa suprématie sur ces dieux-là. Okay? Donc, c'était plus que juste un acte comme ça pour montrer qu'il est capable de faire ces choses-là. Il dévoilait, il révélait qui il était, supérieur à ses faux dieux, lui le seul vrai Dieu. Dieu voulait s'assurer que tout le monde sache qui il est. Et regardez, gardez votre place dans Exode 14, mais juste deux petits passages qu'on va aller voir. Exode 6, versets 6 et 7. Là, ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, c'est pourquoi il dit aux enfants, dirait, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Et regardez aussi le chapitre 10, les versets 1 à 2. Donc, là, il parla à son peuple. Et ici, versets 1 et 2 du chapitre 10. « L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater ma gloire au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Donc, vous voyez que Dieu voulait révéler qui il est. Vous saurez que je suis l'Éternel. Fait que le but, c'était vraiment un but de se révéler tel qu'il est. Et c'est pour ça que j'ai donné à mon message le titre de « Créer pour la gloire de sa révélation ». Lorsque Dieu se révèle, c'est glorieux, c'est grandiose. Et c'est vraiment ça le point majeur du chapitre 14, avec la délivrance de passage de la mer Rouge. Et donc, la gloire de son jugement, c'est évident ici avec les ennemis de Dieu. Mais savez-vous que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez été racheté par le sang de Jésus, savez-vous c'est quoi la gloire de son jugement? C'est celui de la croix. Votre péché a été jugé. Et vous avez accepté que le jugement que vous méritez, Jésus l'a pris à votre place. Et ça, quelle gloire! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pardonnés complètement de tout péché. Et ça, c'est la gloire du jugement de Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il a fait tomber son jugement sur son Fils unique. Et ça, ça glorifie Dieu. Dieu le dit lui-même. Hein? Lorsque Jésus parle de l'heure qui s'en venait devant lui, on a vu ça dans Jean, il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain qui ne tombe en terre, le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc Jésus, en mourant à la croix, a glorifié Dieu. Et ça, c'est l'apogée de l'histoire de la rédemption. Ici, ce n'est qu'une image, c'est une ombre des choses à venir. L'accomplissement est dans la croix du calvaire. Et Dans le fond, la gloire du jugement de la croix, c'est du fait qu'on est épargné. Nous qui méritions le jugement, on en est épargné par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Paul, quand il parle de la croix, il dit qu'il s'en glorifie. Il dit dans Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Il n'y a pas de plus grande gloire pour un enfant de Dieu que la croix. C'est là que notre péché a été jugé. La gloire de son jugement. Mais regardez aussi, avancez juste un petit peu, pour moi c'est deux pages, dans chapitre 16, verset 12. Je vais amener un autre élément sur le jugement de Dieu. 16, 12. « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin... vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » On n'a pas tout lu le passage, mais il y avait un jugement là-dedans. Le châtiment de Dieu, ils se plaignaient. Dieu leur a donné de la nourriture jusqu'à temps qu'elle leur sorte par les oreilles. Et Dieu est glorifié non seulement par le jugement, mais aussi par son châtiment. Et pour nous, ça veut dire quoi? C'est lorsque Dieu s'occupe de tasser... Peux-tu fermer le... deux choses, on va être distrait par... C'est lorsque Dieu veut se glorifier en tassant le moi, notre chair, de la place centrale de nos vies, puis mettre Jésus. Essentiellement, le châtiment de Dieu dans sa face, c'est ça. C'est décentrer le moi, la chair, puis donner la place centrale à Jésus. Il est déjà dans nos vies. On l'a déjà reçu comme sauveur personnel, mais lui laisser la prééminence, la place d'honneur, la place première qu'il mérite. Et ça, quand Dieu nous châtie, c'est pour ça que c'est bon. Parce que ça nous délivre de nous-mêmes. Et ça donne toute la liberté à Dieu, le Saint-Esprit, à Jésus qui vit en nous, de prendre toute la place. Et ici, ben, dans le chapitre 5, c'était la provision physique. On sait que Dieu avait pourvu à leurs besoins en nourriture pendant tout le long, puis en eau aussi. Mais pour nous aussi, spirituellement, lorsque Dieu s'occupe, par son esprit qui vient en nous, de nous dégager, de nous libérer de nous-mêmes, afin qu'on n'accomplisse pas les désirs de la chair. C'est pour ça que ça nous dit que si on marche par l'esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Et donc ça, c'est bon quand Dieu juge les voies, les pensées, la volonté de notre chair dans notre vie, pour remplacer par Christ. Donc c'est bon, c'est glorieux. Le jugement de Dieu, c'est quelque chose de bon. Et donc ça m'amène... Ah, puis juste avant, une petite illustration pour terminer ce point ici sur la gloire du jugement de Dieu. Le livre d'Ézéchiel. Avez-vous déjà lu le livre d'Ézéchiel? Le livre d'Ézéchiel a quelque chose de particulier, c'est que c'est le récit, dans le fond, on va dire, vu de l'intérieur... Il y a eu jugement, bon, Jérémie en parle, puis, OK, Jérusalem qui est détruite. Mais Ézéchiel nous amène les choses du point de vue de Dieu, où est-ce que la gloire de Dieu s'en va. À cause du jugement, la gloire de Dieu s'en va. Et à 26 reprises dans le livre d'Ézéchiel, il y a l'expression « Vous saurez que je suis l'Éternel ». Et c'était donc le contexte du jugement, Dieu qui retirait sa gloire. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il sache que qui est là, ou qui n'est pas là, c'est toute la différence entre la vie et la mort. En fait, ça nous dit dans Nombre, « Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. » Il n'y a rien de pire, il n'y a rien qu'on peut imaginer de pire que d'être privé de la présence de Dieu. C'est pour ça que notre désir en tant qu'Église, c'est de faire connaître ce Dieu merveilleux par Jésus, son Fils, parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir une relation, de connaître Dieu, de l'avoir dans notre vie. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une série de choses à faire ou à ne pas faire, c'est une personne qui est présente dans nos vies et qui agit, puis qui fait toutes choses à merveille. Et donc, ça m'amène au deuxième point, la deuxième gloire, non seulement la gloire de son jugement, avec les plaies d'Égypte, les 10 plaies, mais aussi, et là on va aller dans notre texte au chapitre 14, la gloire de sa puissance surnaturelle. Lisons les versets 15 à 22. « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends la main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui soufflait avec impétuosité toute la nuit. Il mit à sec la mer, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ça, là, c'est surnaturel. C'est pas supposé d'arriver de même dans la vie normale, de se lever le matin et que la mer est séparée en deux. C'est la gloire de la puissance surnaturelle de Dieu. Et la séparation de la mer rouge, comme on vient de le lire ici, c'est la manifestation physique. Okay? C'est visuel, on peut le voir. Du fait que Dieu est capable de, connaissez l'expression, bypasser ou outrepasser, passer outre les lois naturelles. Dieu est capable de faire ça. Regardez le ministère de Jésus, on le voit beaucoup faire ça et passer les lois naturelles. On voit ça aussi dans des ministères prophétiques tels que Élie puis Élisée. Où est-ce que Dieu fait des miracles, okay, pour opérer sa délivrance. C'est aussi pareil pour le salut d'une âme. Lorsque quelqu'un est sauvé, Dieu passe par-dessus les lois naturelles de la pensée humaine, de la volonté puis de la disposition du cœur humain. Qui veut rien savoir de Dieu, la Bible dit que nul ne cherche Dieu. Puis Dieu passe au-delà de ça, c'est surnaturel. Le salut vient de l'Éternel, pas juste ici dans le domaine physique, mais aussi dans le domaine spirituel. Puis c'est aussi vrai pour des enfants de Dieu lorsqu'ils apprennent à vivre cette vie surnaturelle qui est la leur, de Jésus qui vit en eux puis qui vivent par la foi pour produire le fruit de l'esprit. Et ça, c'est surnaturel. C'est pas le fruit des bons efforts, c'est pas le fruit humain, c'est le fruit de l'esprit. Et ça, c'est la gloire de la puissance surnaturelle dans la vie des enfants de Dieu. Et Dieu demande de cette manière que sa gloire réside dans le fait que personne n'est capable de faire ce que lui seul peut faire, parce que c'est lui qui est Dieu, puis il n'y en a pas d'autre. L'idée de sainteté. La sainteté, c'est l'unicité de Dieu. C'est quoi le mot que j'ai pris hier? J'ai un mot qui m'était venu, puis j'ai inventé un mot, puis là, je ne m'en rappelle plus. L'autreté de Dieu. L'autreté. Dieu est autre. Sa sainteté, c'est son autreté. Il n'y a pas personne où on peut dire, OK, mais tu es plus saint. Le fait que Dieu est incomparable. Il n'y a pas personne qui est comme Dieu. Oh, que Dieu puisse mettre à nos cœurs en 2026 de rechercher, de désirer la vie surnaturelle par le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, et pas se contenter de l'apathie et de la médiocrité. Parce que nous sommes unis à Christ, comme la vigne avec les branches, sa vie vit en nous, coule à travers nous. Puis lorsque c'est le cas, dans une église comme la nôtre, qu'est-ce que ça donne? Éphésiens, chapitre 5, verset 18 à 21. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » Des fois, on peut dire, wow, c'est spectaculaire quand les chrétiens sont remplis de l'Esprit. Non, c'est dans le quotidien, puis il y a cette beauté de la relation avec Dieu puis avec les autres. Où est-ce qu'il y a cette louange, cette gloire qu'on rend à Dieu, puis aussi cette soumission volontaire, mutuelle les uns envers les autres. C'est ça la vie surnaturelle de Dieu. Et par contraste, c'est contraire à la vie charnelle, des disputes, du jugement, de toutes sortes de choses qu'on peut avoir dans nos relations interpersonnelles. Et ça vient du feu, du désir de ce qui est exprimé dans le psaume 27, verset 4. Je pense que c'est Sébastien qui met ça dans sa signature. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dieu, je veux être dans ta présence constamment, je veux être proche de toi, je veux te contempler. Et regardez au verset 16, on relit ce qui avait été dit dans le verset 16. Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ici, on voit que Dieu, il dit, « Hey, toi, tu as un rôle là-dedans, Moïse. C'est moi qui vais faire les miracles, mais toi, il faut que tu fasses la part que je te demande. Il faut que tu frappes avec ta verge la mer. Tu vas être l'instrument dans mes mains. » Et ça, il y a quelque chose d'important là-dedans. Tout le monde, on est appelé à faire confiance à Dieu, à marcher par la foi. Mais on n'a pas tous le même rôle. Il y a des leaders, comme Moïse, puis il y a ceux qui sont appelés à suivre les leaders, mais dans les deux cas, la réponse de la foi est cruciale. Si on a juste un leader qui marche par la foi puis personne n'embarque là-dedans, ça ne marche pas. Si on a un peuple qui est disposé à marcher par la foi, mais qui n'a pas le leadership pour embarquer dans ce que Dieu dirige de faire, ça ne marche pas non plus. C'est ensemble. Et c'est ce qui nous permet de vivre la délivrance surnaturelle de Dieu, c'est la foi. Comme on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, on vit par la grâce au moyen de la foi. Donc, que ce soit dans vos relations maritales, mari et femme, familiales, parents et enfants, ecclésiales, pasteurs et brebis, ou toutes les relations qu'on peut avoir, où est-ce qu'on est appelé, comme on a vu, à se soumettre les uns aux autres, le pattern est le même. On a un choix. La voie de la mort, j'ai raison, t'as tort. Puis là, peut-être dans le bien puis le mal, c'est l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Ça produit la mort, ça fait rien de bon. C'est pas la voie du surnaturel. Et ça ne glorifie pas Dieu. Ou, dans ces relations, on peut choisir la vie. Et la vie, c'est qu'est-ce que je recherche? Je recherche-tu, moi, ce que je veux, ou je recherche Dieu, puis je prends à en payer le prix? De me faire piler un peu sur mon orgueil, d'avoir mes plans qui ne sont pas exactement comme j'aurais voulu, d'avoir enduré des choses que normalement j'endurerais pas. Pourquoi? Parce que je choisis la vie, l'arbre de vie, Jésus. Et ça, c'est la vie surnaturelle. Et ma prière pour cette année, c'est comme c'est exprimé dans 1 Pierre chapitre 5, versets 10 et 11. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Puis le verset que tantôt tu as cité, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. » Alors, c'est quoi ici qu'on voit? C'est Dieu qui faisait éclater sa gloire. Puis il se servait de son peuple, puis il se servait aussi de ses ennemis, des Égyptiens, pour faire éclater sa gloire. Puis qu'est-ce qu'il dit à deux reprises dans le passage? Ils vont savoir que c'est moi qui est l'Éternel. Dieu voulait non seulement faire éclater sa gloire, mais révéler qui il est à travers ça. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu incomparable. Et Dieu est capable encore, en 2026, avec notre Église, avec nos vies personnelles, Dieu est encore capable de faire éclater sa gloire. Et il veut faire éclater sa gloire. C'est le but. Théologiquement, quand on regarde, là, il n'y a rien de plus grand dans les desseins de Dieu que sa propre gloire. C'est le but suprême. Et donc, Dieu veut faire ça encore. Dieu veut se faire connaître tel qu'il est, lui, le seul vrai Dieu. Et il nous demande simplement de lui faire confiance dans les circonstances que lui va décider de nous faire traverser. Tellement que ça marche. C'est lui qui décide. C'est lui qui est au contrôle. Il nous demande de lui faire confiance dans ce que lui va nous placer avec les moyens que lui a désignés pour se glorifier. Et c'est ça, marcher par la foi. « Hey, Dieu, j'aurais pas voulu ça. » Mandat à Job, « Hey, Dieu, c'est donc même des bizarres de voix. Là. Moi, j'étais un homme qui t'aime, puis tu m'enlèves tout. » Dieu, c'est ça qu'il avait décidé. C'est les moyens désignés par Dieu pour sa gloire. Et c'est encore vrai pour aujourd'hui. Ça nous amène à la troisième gloire, celle de sa délivrance. Donc, la gloire du jugement, la gloire de son œuvre surnaturelle. Et finalement, la gloire de sa délivrance. Versets 26 à 31. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront. Donc là, ils ont passé, la mer a été ouverte, mais là, les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. La gloire de la délivrance. Ici, on voit non seulement les actes surnaturels de Dieu qui a fait passer Israël dans la mer, okay, de façon surnaturelle, puis ici, on voit Dieu qui nous libère de ceux qui nous asservissent, de ceux qui nous veulent du mal. Donc, non seulement il nous donne la liberté, mais il nous protège du mal aussi. Et c'est ce qu'on voit avec justement la mer qui tombe sur les ennemis pour justement qu'il ne soit plus une menace pour eux autres. Et là-dessus, j'ai retenu, pour faire un parallèle, Colossiens 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, ça c'est la loi, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Gardons même le diable. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, ça parle de Jésus ici, afin que par la mort de Jésus, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La délivrance de Dieu qui nous délivre de tous nos ennemis. Vous dites, ouais, mais il y a encore un diable qui est là, puis j'ai encore des attaques. Oui, mais la puissance est brisée, puis il n'y a rien, de toute façon, et ça, ça a été de toute époque, que Satan ne puisse faire sans la permission de Dieu. Et lorsque Dieu le laisse faire, comme avec Job, justement, c'est parce que ça sert à ses desseins. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec ça pour se glorifier, puis pour notre bien. Comme un chant qu'on va chanter bientôt, j'espère, pour sa gloire et pour notre bien. Savez-vous, ça va toujours ensemble. Quand on est un enfant de Dieu, quand Dieu fait les choses pour sa gloire, ça finit toujours par être pour notre bien. Ça n'a pas toujours l'évidence dès le début, pensons à Job, mais ce l'est enfin en bout de ligne, au bout du compte. Et donc, ce que celui, Philippiens 1:6, celui qui a commencé en nous cette œuvre, il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Dieu, il est capable de finir ce qui a commencé dans nos vies. Il avait commencé une œuvre de délivrance, les plaies d'Égypte, tout ça. Dieu continuait. Il était capable de finir ce qui avait commencé. C'est pareil dans nos vies. Est-ce que tu le crois? Crois-tu vraiment que Dieu, il est encore au contrôle puis il ne l'a pas échappé? C'est dur des fois. En fait, des fois, tout dit le contraire. Quand on semble avoir aucune issue à une situation ou une relation problématique, il est où Dieu? Quand on a tout essayé pendant des mois, voire des années, en vain, ça ne donne pas des résultats. Quand il semble que le ciel est de fer face à nos prières, qui semblent simplement être rejetées, pas écoutées. Je disais quelque chose là-dessus dernièrement, c'était assez prenant, puis c'est fou. Elle va vous le partager de même. Ça vous tente-tu ou je passe à un autre sujet? C'est un livre que je suis en train de lire, puis ça parlait d'un couple qui avait déménagé, puis le gars avait une nouvelle job, puis c'est une belle petite famille, tout allait bien, puis là, ils sont arrivés là dans un nouvel endroit, nouveau travail, puis là, tout s'est mis à aller de mal en pire. Au travail, les gens étaient méchants, du rejet, puis là, la femme, elle était là, puis elle priait pour son mari, tu sais, parce que c'était dur, lui était là à job, puis c'était vraiment très, très éprouvant. Dieu délie, puis là, ça a duré longtemps, puis à un moment donné, elle a dit, « OK, Dieu, je t'ai écœuré, je lance la serviette. » Puis elle a dit, « Je deviens une humaniste, puis j'abandonne, moi, ça, la foi chrétienne. » Elle était tannée à ce point-là. Ben Dieu ne l'a pas laissé. Dieu l'a laissé aller comme ça pendant un bout. Mais Dieu, dans son amour, puis c'est là qu'elle s'est rendue compte, « Wow, avec Dieu, son amour, ça dépasse tout ce qu'on peut... » Tu sais, c'est pas la performance, c'est vraiment la fidélité de Dieu. Que même elle, si elle était découragée et avait lancé la serviette, Dieu l'a abandonné, il l'a ramené, puis il s'est occupé de sa famille, de son mari, puis de la situation. Fait que je ne vous encourage pas à lancer la serviette, là, mais c'est juste pour vous dire la fidélité de Dieu est tellement plus grande que la nôtre. N'est-ce pas ce que ça dit dans la parole? Que, puis on va le voir après-midi, mais c'est dans le texte qu'on va considérer tantôt. Que même si nous, on n'est pas fidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Gloire à Dieu. Et j'aimerais juste vous dire, ben là, je vais donner une illustration. Tu sais, quand on a l'impression, comme je vous ai dit, là, qu'il n'y a pas de réponse aux prières, il n'y a rien qui se passe. Voulez-vous que je vous partage une vérité qui peut vous aider là-dedans? Non? Sinon, vous parlez à la salle de bain, là, puis quand vous allez revenir, le message va être quasiment fini. Mais la gloire de la délivrance de Dieu, ça se passe par les moyens, les moments, les personnes, les circonstances, les épreuves que Dieu seul est capable d'orchestrer, que lui permet, puis que juste lui est capable d'orchestrer et de résoudre. Puis c'est ça tout le point. Parce que c'est ça qui amène la gloire. Parce que si on était capable de s'en sortir, qui aurait la gloire? C'est nous. Fait que Dieu met dans des situations. Puis regardez, c'est un pattern dans la Bible partout. Regardez Joseph. Hein, sa vie, là, ça allait pas bien, là, tout allait de mal en pire. Puis Dieu s'est glorifié à travers tout l'ensemble de l'histoire. Puis on peut prendre tellement d'histoires comme ça. Les apôtres, Jésus avec les apôtres, une gang de nobody. Puis comment Dieu s'est glorifié à travers tout ça. Et c'est ça le point. Sa délivrance, c'est dans des circonstances impossibles. Quand tout va de mal en pire, c'est là qu'il aime se montrer. Pourquoi? Parce que lui-même le dit. Ésaïe 42:8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et encore 48:11, « C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, il répète parce que c'est l'emphase, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu est jaloux, et spécialement de sa gloire. Il la garde jalousement. Pourquoi? Pour que dans nos vies, ça soit évident que c'est lui qui opère la délivrance. Et je termine avec ça, parce qu'il opère la délivrance, puis Dieu veut qu'on puisse expérimenter, pas juste là, de façon intellectuelle, mais vraiment en esprit et en vérité. Philippiens 4, 6 et 7. Y'a-t-il quelqu'un qui connaît ce verset-là? Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on regarde la fin de l'histoire, puis ce qui suit au chapitre 15, on voit que la réponse de Dieu au final sont tombés, dans le fond, en adoration devant Dieu. Et ont aussi, ils sont mis à chanter à la gloire de Dieu. Et la foi et la louange est vraiment ce qui s'y est lorsque Dieu révèle sa gloire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que croire à un Dieu aussi merveilleux puis le louer d'être un Dieu si merveilleux? Et le secret pour cette disposition qui donne gloire à Dieu, c'est l'action de grâce. Je le répète, Philippiens chapitre 4, verset 6, le point tournant, c'est l'action de grâce. Comment de fois, puis on l'a vu dans le message, on peut arriver à Dieu, puis avec des prières, puis là, on peut même monter d'un cran, avoir des supplications. dire « Dieu, au secours, fais quelque chose! » Puis là, il n'y a rien qui se passe. C'est pas parce que Dieu n'est pas au contrôle, puis c'est pas parce que Dieu ne nous aime pas et qu'il nous rejette. Mais c'est un package deal. Prière, supplication, avec des actions de grâce. Des actions de grâce illuminées par l'Esprit, dirigées par l'Esprit, c'est-à-dire, OK, Seigneur, ça fait mal, je ne veux pas avoir cette situation, ces voies-là que tu permets dans ma vie, mais je te dis merci parce que c'est dans ta bonté, tu es au contrôle, tu sais ce que tu fais. Donc, de cœur, d'arriver à dire merci, Seigneur. Et ça, c'est ce qui va faire qu'on va rentrer dans le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est une délivrance extraordinaire. On parle ici, oh, wow, des actions d'éclat, la mer, je ne sais pas pour vous, là, mais si vous allez au fleuve Saint-Laurent puis vous allez à Lévis plus vite, là, attendez-vous pas nécessairement que le fleuve, tu sais, tu n'auras pas besoin de prendre le pont, tu pourrais direct passer par Neuville et aller à Saint-Nicolas. Je pense pas que c'est le plan nécessairement de Dieu. Puis vous essayez, là, ça va passer dans le journal, vous n'aurez même pas besoin de nous en parler. Mais sauf que Dieu, lorsqu'il opère sa délivrance surnaturelle, c'est dans des situations comme ça où est-ce que on devrait capoter, on devrait être enragé après tout le monde, on devrait faire une crise d'apoplexie, mais Dieu nous donne une paix qui dépasse la compréhension humaine. Puis ça, c'est plus que juste, « Ah, oh, wow, je suis en paix. » Non, ça garde mon cœur. Puis j'ai une joie, j'expérimente la vie surnaturelle de Dieu. C'est ça que Dieu désire pour nous autres. Et c'est ça qui nous appelle à croire, que sa grâce est toujours là. Comme il a été fidèle et plein de grâce dans le passé, savez-vous quoi? Dieu va demeurer fidèle et aussi plein de grâce dans l'avenir. Mais on bronche. La Bible nous dit, hein, on bronche de différentes manières. Puis des fois, on peut être irrésolu. On peut avoir la pensée d'un bord puis de l'autre, puis pas trop être certain. C'est pour ça qu'on peut toujours et toujours se souvenir de Jésus-Christ, comme on va voir tantôt. Ça, ça ne veut pas dire, ah oui, Jésus, mais ça, j'ai déjà entendu parler de lui. Non, non, c'est se ramener à Jésus, à ce qu'il est, à ce qu'il a fait pour moi, à ce que je suis en lui. Se souvenir de notre identité, de ce que, tout le bagage qui vient du fait de le connaître. Se souvenir de la mer Rouge. Et pour certains, j'espère aussi se souvenir du Jourdain. Non seulement d'avoir été délivré de la pénalité du péché, mais de pouvoir vraiment expérimenter la délivrance de la puissance du péché. Et donc, c'est mon encouragement pour vous ce matin, que nous puissions, d'un même cœur, nous encourager à regarder à Dieu cette année. Il veut se glorifier, et je sais qu'il va le faire, mais je ne sais pas comment, mais ça, c'est pas grave, ça y appartient. Je termine avec deux passages, puis c'est ma conclusion. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et si vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre sauveur, la bonté même de Dieu vous pousse à la repentance. Vous êtes ici par la bonté de Dieu qui vous appelle à lui, qui vous aime et qui veut vous se faire connaître à vous, à votre cœur, d'une façon réelle et puissante. Merci Seigneur que tu es ce Dieu qui se révèle. Et quelle gloire lorsque tu te révèles. Et non, il n'y a pas de mer rouge en 2026. En tout cas, je ne pense pas. Pense pas que tu vas encore refaire cet exploit, mais Seigneur, certainement tu veux refaire l'exploit de te révéler tel que tu es dans ta gloire. Et c'est un exploit de briser les barrières du cœur humain qui est dur et qui est une industrie à idoles, comme disait Martin Luther. Seigneur, quand tu brises ces chaînes, quand tu brises cette puissance, tu te glorifies, tu te révèles comme étant le Dieu unique et saint. Seigneur, on veut regarder à cette nouvelle année qui commence par la foi. Et Seigneur, merci que, comme tu étais sur ton trône lors du déluge, sur ton trône, tu règnes éternellement. Oh, merci Seigneur. On veut s'arrêter et savoir que tu es Dieu, que tu règnes sur les nations. Merci Seigneur de cette joie, ce privilège de te connaître. Oh, et puisses-tu te faire connaître au plus grand nombre en 2026. On te le demande au nom de Jésus. Amen.